émission de Marc-Alain Wakenin. Romancière, psychanalyste et philosophe, professeur émérite de l'Université française, auteur de plus de 40 ouvrages, traduits dans le monde entier, docteur honoris causa de nombreuses universités à travers le monde, on ne compte plus les prix qui vous honorent et les thèses de doctorat qui vous sont consacrées. Vous êtes une femme engagée tant sur le plan universitaire que dans diverses actions sociales, politiques et spirituelles. Mais il serait peut-être plus simple de dire que vous êtes aujourd'hui une des intellectuelles les plus importantes du XXe siècle et de ce début du XXIe siècle. Julia Kristeva, bonjour.
Bonjour.
C'est vraiment un grand honneur et un très grand plaisir de vous recevoir dans cette émission qui s'associe aujourd'hui aux journées que France Culture a consacrées à Marcel Proust à l'occasion du centenaire de l'apparition du premier tome de La Recherche du Temps Perdu paru en 1913 aux éditions Grasset. Si Proust est très présent dans les cursus scolaires et universitaires, la dimension juive de Proust est rarement évoquée, voire totalement ignorée. Cependant, vous, Julia Kristeva, dans votre livre « Le temps sensible, Proust et l'expérience littéraire », vous y consacrez un chapitre entier intitulé « Questions d'identité », questions au pluriel, chapitre absolument central, ne serait-ce que par la place qu'il occupe dans votre ouvrage, puisqu'il y figure exactement au milieu, à la page près. Comme cela m'a rappelé, immédiatement, ça m'a fait penser aux deux mots qui sont au centre de la Torah, du Pentateuque. Les deux mots du centre de la Torah, c'est « Darosh Darash », qui veut dire « Interprète-moi ». Et vous écrivez « Ambigu, mais aussi diffuse », la judéité proustienne surprend là où personne ne l'attend. Et je me suis donc posé la question, où vous a-t-elle surprise? À partir de quand? Comment cette question a-t-elle surgi chez vous? Est-ce la théoricienne de la littérature, la psychanalyste, la romancière, qui a été surprise par cette judéité? Julia Kristeva.
Merci d'abord, Marc-Alain Wakenin, de m'inviter cette émission, et merci de consacrer à Proust vos talmudiques aujourd'hui. C'est en effet un immense auteur dont la littérature française s'honore, pas suffisamment connu, vous l'avez dit, encore que cela commence, et surtout pas assez connu dans son interrogation concernant l'identité. On connaît sa longue phrase, on connaît son dandysme, on connaît sa peinture de l'aristocratie, le déclin de la France et du monde autour de l'affaire Dreyfus, autour de la Première Guerre mondiale. Mais la question de l'identité, qui est pourtant cruciale aujourd'hui, et qu'il a abordée avec beaucoup de délicatesse, mais aussi beaucoup de cruauté, est abordé par ce que j'appelle moi parfois de manière ironique mais sympathique, par les proustophiles, mais de manière un peu abstraite, un peu scientifique et pour les initiés. Et le grand public, en effet, n'a pas ce sentiment d'un Proust, cette notion d'un Proust à la charnière non seulement de deux siècles, 19e et 20e, mais de deux identités, juive et chrétienne, rabbinique et catholique, on va dire. Et je me permets de le rappeler en début de cette émission. Nous sommes avec un auteur qui est aussi une personne, un citoyen français, qui est né le 10 juillet 1771.
1871.
Qu'est-ce que j'ai dit, moi ?
1871.
C'est bien, voilà. Non, non. Mon inconscient peut-être l'a trahi si on garde ça dans l'émission.
Oui.
Parce qu'il réécrit à sa façon Saint-Simon.
Oui.
Et donc, il appartient à la francité profonde. Mais il réécrit cette culture française en lui insufflant quelque chose qui n'est pas dans cette culture, en tout cas pas à sa surface. Mais laissez-moi quand même pour nos auditeurs planter le décor.
Tout à fait, oui.
Donc, il est né en 1871 et il décède en 1922. On se plaît à remarquer que sa vie utérine coïncide avec la Commune de Paris, donc c'est déjà dramatique, la société française est bousculée. Cet enfant qui va être asthmatique va vivre ses difficultés. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est cette ambiguïté, amphibie, si vous voulez, pour reprendre des termes que vous aimez, Proust amphibologue entre deux identités. Il est de mère juive et de père catholique. Et il va être baptisé au mois d'août, donc très vite après sa naissance, à l'église Saint-Louis d'Antin, dans laquelle il va faire aussi sa communion, sa confirmation, dont il se vante devant Léon Daudet et son fils Lucien Daudet, parce que son ambition est de prendre une place dans le panthéon des lettres françaises. Mais quand on le lit et quand on rentre dans le rythme essoufflé de cette phrase magnifique qui prend des pages et des pages, qui se tisse à travers des paperoles qu'il colle sur les phrases subordonnées de manière à ce que ça soit comme un accordéon, mais en même temps que ce soit lisible, c'est magnifique de voir ça dans les bibliothèques, on constate que le temps retrouvé qu'il cherche est bien sûr le temps de son enfance. Mais à travers lui, les personnages, il y en a plus de 500, sont souvent des juifs de diverses qualités et qui reflètent des aspects de lui-même, qui d'ailleurs se reflètent avec ces aspects dans l'aristocratie, on en parlera tout à l'heure, qui les accueille, mais en même temps qui en a peur et qui les marginalise. Et cette porosité de la société française a été saisie par lui comme par personne entre intégration, désintégration, persécution, tout ça sur fond d'affaire Dreyfus. Alors, on ne pouvait pas être sensible à cela. Vous me demandiez comment je suis arrivée à cet aspect des choses. C'est vrai que on l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas très remarqué, c'est remarqué quand même par quelques scoliastes. Je ne pouvais pas ne pas m'en rendre compte puisque je suis moi-même d'origine bulgare, de nationalité française, citoyenne européenne, adoptée américaine. Et donc tout ce conglomérat, cette espèce de multivers qu'est chaque individu d'aujourd'hui, je le ressens peut-être de manière à la fois plus sensuelle, plus passionnelle et j'essaie de me donner les moyens intellectuels pour dessiner cette sensation et la transmettre. Je me suis rendu compte que cette présence de sa judaïté dont il souffre, dont il est fier et qu'il essaye de transmettre, recoupe un problème fondamental qui est la question de l'antisémitisme et que Hannah Arendt va aborder en s'appuyant beaucoup sur Proust. Ce qu'on ne sait pas beaucoup, c'est que le livre de Hannah Arendt sur l'antisémitisme évoque énormément cette lecture qu'elle fait pendant son exil en France et notamment cette phrase que Proust prend à Shakespeare de Hamlet, un être ou ne pas être, et qu'il transforme en être ou ne pas en être. Est-ce que je suis, est-ce que je ne suis pas, ou est-ce que je transforme la question de l'identité, je la réduis presque à une appartenance, je fais partie d'eux ou je ne fais partie d'eux. Et là, Hannah Arendt débusque quelque chose qui concerne la communauté juive en France et dans le monde, mais plus particulièrement en France, c'est l'intégration. Comment l'identité est devenue une intégration? Quels sont les bénéfices de cet acte, de ce mouvement? Quelles sont aussi les limites? Bernard Lazare et d'autres ont creusé cette question. Et je vais essayer, à partir de là, de trouver comment Proust essaye de décortiquer ce dilemme un être n'est pas un être. Un être de quoi ? De la, des salons, de la bourgeoisie, de l'aristocratie, mais peut-être aussi de la communauté juive, de la communauté des homosexuels, qui parfois pour lui est une race maudite et parfois une exception. Comment faire ça ? Et ma réponse à Hannah Arendt va être eh bien non, il va choisir ni l'un ni l'autre, ni d'en être ni de ne pas en être, mais d'être l'artiste qui se tient à la marge. Or, pour se tenir à la marge, il faut être aussi au fond, dans le cœur et à la marge, et c'est la singularité de l'artiste. Donc, toute cette problématique, on peut la voir se dessiner à travers chaque personnage. Je pense que nous entrerons tout à l'heure dans les détails. Mais cela conduit, j'aimerais beaucoup finir ma réponse à votre première question, par cette énorme sensibilité écorchée qui suinte dans cette interrogation qui est politique, éthique et philosophique. C'est-à-dire l'immense douleur, mais qui se transforme en une grande joie. Et qui peut être aussi comique. Et moi, je trouve que c'est quelque chose qui est propre à la civilisation européenne, avec ses fondements grecs, juifs et chrétiens, et peut-être tout particulièrement dans la tradition juive. Le peu que je connaisse de la tradition talmudique cible précisément, si je puis dire, cette ambivalence où l'expérience du tragique s'accompagne d'un apaisement, d'un rire et parfois de comédie. Et donc, voilà, c'était mon cœur qui a parlé, si vous voulez, et peut-être aussi une polémique, parce que j'ai trouvé, je me suis beaucoup intéressée à d'autres écrivains français qui ont été fascinés par Proust, et pas forcément pour l'aimer, mais aussi pour être en rivalité avec lui, Céline, qui lui reproche, lui, d'écrire en franco-yiddish. Et je me dis, ben, on va démontrer comment ce franco-yiddish est extrêmement fertile et peut encore nous parler.
Julia Kristeva, nous venons d'entendre un air du célèbre opéra de Fromental à Lévy, qui est intitulé La Juive, et vous rappelez dans votre livre que le grand-père du narrateur chantonnait ces airs, qui fonctionnaient comme un signal, une façon de signaler la présence ou l'arrivée de personnages qu'à l'époque on disait israélites ou que lui pressentait comme tels. Et si l'on regarde le livret de plus près de cet opéra, on s'aperçoit tout de suite que la question qu'il nous pose est celle qu'on vient d'évoquer, que vous avez évoquée avant qu'on passe ce passage, qui est celle de l'identité en général et de l'identité juive en particulier. L'héroïne s'appelle Rachel, c'est elle la juive, mais en fait elle n'est pas juive. C'est la fille du comte Brony qui a été recueillie lors d'un incendie par Éléazar, dont le comte avait tué deux fils. Et Léopold est l'amoureux de Rachel, lui est un noble non juif, qui se fait passer pour un juif pour se rapprocher de la juive qui ne l'est pas. Et donc on a véritablement, je dirais c'est très tragique, mais comme vous avez dit ici avec beaucoup d'humour, une identité complexe, dialectique, qui est peut-être par cette juive d'opéra, je dirais, opéra dans le sens d'ouverture, ce qui ouvre justement à ce questionnement, et c'est un grand clin d'œil, un grand éclat de rire, un grand clin d'œil de Proust, ce que vous avez dit, être ou ne pas être juif, mais est-ce bien la question ? Et vous avez démontré, avant ce morceau de musique, que Proust va déplacer, c'est pas être ou ne pas être, mais en être ou ne pas en être. Et peut-être, il faudrait dire avec Proust, c'est une question que je vous pose, ni l'un ni l'autre, mais peut-être en être et ne pas être en même temps, Julia Kristeva.
Oui, cela fait longtemps que je n'avais pas écouté cet opéra et vous faites bien de me rappeler l'histoire en vous écoutant maintenant toutes ces péripéties de l'identité de la juive qui ne l'est pas tout en l'étant et les autres aussi. Cela peut se rapporter au petit Marcel et au grand Marcel aussi. Est-ce qu'il en est, est-ce qu'il n'en est pas? Ça doit être quelque chose qui l'a toujours travaillé et qui est à la base de son interrogation. Et on peut ajouter là aussi son identité d'homosexuel. Donc, qui d'ailleurs va comparer à être sodomite-sioniste et là aussi encore un grand éclat de rire, mais ni l'un ni l'autre. Alors, ce qui est plus intéressant encore, si on revient à la scène que vous avez évoquée du grand-père ou grand-oncle, ça varie dans selon l'étape de l'écriture, qui accueille un ami du narrateur qui est Swann dans Les Brouillons et Bloch dans la version finale, en évoquant, en fredonnant des airs de cet opéra, mais sans dire les mots, sans dire les paroles pour ne pas vexer le personnage, mais en faisant simplement tralala. Mmh. Et là aussi, c'est extrêmement loufoque, ironique.
Tralala, et le narrateur dit, et j'espérais toujours que les mots n'en viennent pas à l'oreille ou à l'esprit de mon ami. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, vous dites tralala, mais en relisant le texte, il dit tilam, tilam, tilam.
Tilam, tilam,
et j'ai pensé dans ce tilam quelque chose de très talmudique, d'une certaine manière.
Peut-être, oui. Moi, je dis tralala parce qu'en français, on dirait ça, mais... Dans le texte, c'est voilà. Tilam, tilam. Et en effet, je me disais, mais est-ce que ça se disait comme ça dans sa famille, d'où une connotation juive ou yiddish, je ne sais pas dans quelle langue c'est, ou peut-être hébraïque, ou est-ce que c'est lui qui invente ça?
Je ne sais pas, mais en hébreu, l'âme, c'est le d'abord, il y a le mot l'âme ici, dans le sens français, l'âme de quelque chose, mais l'âme, c'est le verbe lamed, qui veut dire étudier, c'était peut-être comme un clin d'œil, il y a ici quelque chose à étudier de cette opéra La Juive. Et je me suis dit, quand vous dites très 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 bien dans ce livre, dans ce chapitre, question d'identité, qu'il y a donc ces trois phases. Il y a la phase hamlétienne, être ou ne pas être, ensuite en être ou ne pas en être, et pour Proust, cette amphibologie de à la fois être et ne pas être, qui me semble véritablement talmudique pour le coup. Puisque un des aspects, on va en reparler plus longuement, mais un des aspects de la pensée de la logique talmudique, c'est que, et c'est une vraie question sur la définition de la vérité, c'est que deux choses, une chose peut être à la fois une chose et son contraire. C'est-à-dire qu'on est au-delà du principe de contradiction de la logique classique d'Aristote.
Oui, ce que vous me dites m'évoque plusieurs choses. D'abord, le fait que... cette identité, déjà du personnage juif de la recherche, est séparée en deux. Vous avez Swann, qui est en principe le noble au sens spirituel du terme, l'esthète, wagnérien, botticellien, adoré, élégant. Il entre dans les salons, tout le monde le respecte. Sa judéité même est relativement bémolisée, si je puis dire, parce qu'il n'y a que Lady Rufus Israel, ce qui est quelque part dans sa généalogie, et on lui attribue même une grand-mère qui aura couché avec le duc de Berry, donc il n'est peut-être pas si juif que ça, mais néanmoins il est le positif. Et puis à côté de lui, il y a Bloch, qui est le vulgaire, celui qui singe la francité, qui s'exprime en phrases en poulet, qui est ridicule, et néanmoins ils sont opposés, donc il y a le positif et le négatif. Mais dans chacun, il y a un double qui est négatif, qui est l'un et l'autre. Par exemple, Swann va être décrit par Norpois comme un vulgaire esbroufeur, parce qu'il clame sur tous les toits ses dernières relations. Il a aussi la constipation des prophètes et l'eczéma ethnique. Il est puant, mais heureusement que c'est Norpois qui le dit et pas Proust. Donc, le personnage est ambigu. Et Bloch lui-même, qui est en principe le négatif et le ridicule dont on a honte, Proust le prend à cœur, et quand Madame de Villeparisis ne lui serre pas la main ou le laisse partir en fermant les yeux, parce qu'il est en plus très Dreyfusard, il a l'impression qu'on s'adresse à lui comme au fils d'un forçat, et il est terriblement ému. Donc le narrateur se délègue dans ces deux personnages pour chercher son identité, mais ces deux personnages sont dédoublés, et le positif et le négatif, un être ou ne pas un être, on voit que ce n'est pas à ça qu'il adhère, parce qu'il cherche une identité qui lui paraît la seule, la vraie, et c'est peut-être ça que le Talmud essaye de célébrer aussi, c'est des éclats de vérité, des éclats de négatif aussi dans chacun. Je vous donne un dernier exemple pour montrer cette espèce de pulvérisation de l'identité. L'identité devenue kaléidoscopique à force d'avoir du positif et du négatif. Et kaléidoscopique est en même temps fascinante et drôle, mais aussi tragique en même temps. C'est la duchesse de Guermantes. Elle est habillée en blanc quand elle est à l'église, et elle est catholique, elle est dans les cathédrales, des taffetas, des tulles en blanc, vaporeuses, etc., tout ce qu'il y a de plus virginal. Mais en même temps, elle peut s'habiller en rouge, et le rouge est la couleur juive. On va y revenir tout à l'heure sur d'autres thèmes. Elle a une plume rouge dans les cheveux, elle a une robe rouge, elle a des chaussures rouges que son mari lui impose, elle est même très violente, quand elle est enfant, elle monte à cheval, elle tue les petits lapins et les chats, enfin, il y a quelque chose de sanguinaire, mais elle est aussi très érotique. Et c'est la seule qui, dans l'aristocratie, est dès le début pour l'affaire Dreyfus. Donc il y a quelque chose du judaïsme positivé et en même temps inclus dans le christianisme qu'elle représente. Donc toute cette mosaïque, si on peut dire, conduit le narrateur à s'identifier à tous ces personnages. Il est partout et il n'est rien d'identique. L'identité n'est pas un culte, l'identité est une interrogation. Et c'est, moi, j'ai essayé de m'imprégner de cette vision et de dire que ça devrait être, et ça l'est aussi, la devise de notre Europe, si elle pouvait tenir quoi ? Non pas un culte, mais une attention, une interrogation, une transvaluation des traditions qui la précèdent, et en particulier de la tradition juive chrétienne. Et Proust nous invite à faire cette transvaluation. Donc Hannah Arendt, pour revenir à un être ou ne pas un être, qui critique la France et l'intégration, en disant que le fait de vouloir en être de la culture française a fait que le judaïsme a été oublié au profit d'une judéité qui se résume à des qualités ou des vices psychologiques ou sociaux. Et par rapport à cela, il y a une solution politique, c'est de restaurer une identité pure politiquement. Elle a raison sur le plan de l'histoire. Mais Proust fait plus que l'histoire. Il fait du talmudisme anesthétique. Il dit, il ne se prononce pas sur la politique, mais je suppose qu'il aurait dit, la solution politique est peut-être bonne, mais elle ne doit pas être la seule. N'enfermons pas l'identité dans des puretés. Faisons de l'identité un questionnement, et à ce moment-là, il y aura du pour et du contre, et moi, je suis l'artiste qui, tout en étant dedans et du pour et du contre, je suis celui qui représente cette polyphonie que je vous fais goûter dans vos lectures, et c'est mon talmudisme à moi.
En vous écoutant, je pense à cette très belle page du Zohar que vous signalez dans votre livre. Proust l'a eu entre les mains, ce Zohar, traduit en français par Jean de Pauli.
Oui.
Et dans ce Zohar, dès les premières pages, on signale que le monde est question. Il est qui et il est quoi ? Question de l'identité, du qui et il est quoi ? Et pour le Zohar, l'homme est un quoi ? L'homme est une question. Et son identité la plus profonde, c'est de ne pas avoir d'identité. Et je retrouve cela tellement magiquement, je peux dire, dans votre livre à la page 203, et j'ai marqué en note génial, dans la marge, et vous écrivez, dans ces conditions, le projet de Proust de dénouer le clanisme au moyen de la judéité elle-même, dépossédé d'une identité propre. Et vous rajoutez à la fin que tel le nouveau roman ou le minimalisme postmoderne, ni d'un côté ni de l'autre, sans cesse au-delà, Proust ne cesse de déranger tous ceux qui veulent en être. Et donc, c'est ni être ou ne pas être, c'est ni en être et ne pas en être, ou ne pas en être, mais c'est véritablement à la fois être et à la fois ne pas être pour défier ces catégories du propre.
Oui, tout à fait. Moi, je ne connaissais pas cette interprétation très subtile que vous avez faite du nom de Adam qui renvoie à la question. Et j'étais restée à quelqu'un dont le rapport avec le judaïsme est pour le moins très ambigu. C'est Nietzsche qui disait que pour nous sortir des crises, je contemporanise un peu, je modernise, il nous faut mettre un grand point d'interrogation à l'endroit du plus grand sérieux. Et quoi de plus sérieux que Dieu et l'identité ? Je renvoie toujours ma revendication d'une identité questionnante à cette transvaluation par Nietzsche. Et maintenant, vous me dites qu'il faut aller plus loin et que c'est déjà dans le judaïsme où vous avez cette question.
Mais oui, alors vous avez tout à fait raison de citer à la fois Nietzsche et Dieu, parce que en même temps que le Zohar dit que l'homme a une valeur numérique de ma, qui veut dire quoi, qui est une question, le nom de Dieu lui-même, le tétragramme, l'ineffable, a la même valeur numérique selon un déploiement, c'est-à-dire que lui-même, Dieu, est une question. Et que ce que me semble dire dans votre commentaire que vous faites de Proust, c'est que les vérités les plus profondes, voire les plus métaphysiques, voire les plus théologiques, elles-mêmes ne sont des vérités que si elles sont le lieu d'un questionnement. Et vous pensiez à Proust, et quand vous avez dit « je pense à quelqu'un », et vous avez dit Nietzsche, je pensais que vous alliez citer un de mes maîtres, qui était Edmond Jabès, qui, comme poète, et par son livre des questions, a réintroduit dans la littérature française cette dimension absolument questionnante qui fait sortir justement du propre et du clanique, qui me semble être peut-être la leçon la plus magistrale, en tout cas dans votre lecture et dans ce livre que vous lui avez consacré, Le temps sensible, Proust et l'expérience littéraire. Et peut-être justement, c'est ça l'expérience littéraire, c'est-à-dire la transformation, comme vous expliquez dans votre livre. C'est-à-dire en quoi la littérature nous transforme. Elle nous transforme au niveau de l'identité, en nous permettant de passer d'une identité fermée, figée, à une identité ouverte et questionnante. Julia Kristeva.
Oui, c'est tout à fait le fil que j'ai suivi. D'ailleurs, cette question de l'interrogation comme expérience intérieure va être développée dans la théologie chrétienne, par exemple, dès saint Augustin, quand il dit « Questio mihi factus sum »,« Je suis devenu question pour moi-même ». On ne dit pas assez que ça vient du judaïsme. On le renvoie souvent à l'interrogation philosophique grecque, ce qui est aussi le cas. Le dialogue platonicien est un dialogue qui est fait de questions. Mais il est important, je trouve, aujourd'hui, de donner les racines de toute cette motion vers l'interrogation que nous sommes tous les deux, vous et moi, Monsieur Wachnin, en train de mettre en évidence, et qui me paraît très important à insister là-dessus face à ces crispations identitaires qui secouent le monde avec des bombes et autres djihadismes. Moi, je voudrais ajouter à cette idée de être ou ne pas en être et au questionnement une dimension qui parlera peut-être de manière plus sensible à nos auditeurs, à savoir la douleur et la joie. Parce que là aussi, ce sont des identités qui, pour Proust, sont à prendre au sérieux, à habiter, comme on peut habiter l'être et le néant, le positif et le négatif, et en même temps, en les irradiant, en les analysant, en les interrogeant, s'acheminer vers cet état de comique qui est peut-être un état fondamental de l'expérience intérieure. Et d'ailleurs, j'ai trouvé, moi, pas dans le kabbalistique, je ne suis pas aussi avancée que vous, mais je suis tombée sur une phrase, je crois, du Talmud, qui dit « La présence ne réside pas dans la tristesse, mais dans la joie ». Et cette joie est celle de Proust qui traverse toutes les épreuves et toutes les douleurs de l'homosexuel, les douleurs de l'exclu. Et j'aimerais bien lire une phrase où il insiste sur cette douleur pour qu'on puisse jubiler davantage quand il la traverse et quand ça devient un état de grâce. Chaque personne qui nous fait souffrir, dit-il, peut être rattachée par nous à une divinité dont elle n'est qu'un reflet fragmentaire et le dernier degré, divinité, idée, dont la contemplation nous donne aussitôt de la joie au lieu de la peine que nous avions. Donc c'est en contemplant l'identité, en l'apprivoisant, en faisant une expérience littéraire intérieure, comme le fait la littérature, mais il dira aussi que la littérature est en compétition avec les cathédrales. Il ne dit pas avec le judaïsme, c'est sous-entendu, mais elle est en compétition avec toute forme de sacré. Et là, c'est très clair, à travers la contemplation de la douleur, je vais vers la joie, comme nous dit le Talmud. La présence n'est pas tellement la douleur, mais c'est la joie. Et je termine la citation. Tout l'art de vivre, c'est de nous servir des personnes qui nous font souffrir que comme d'un degré permettant d'accéder à leur forme divine et de peupler ainsi joyeusement notre vie de divinité. C'est une vision spirituelle de la littérature qui fait de la souffrance et de la joie des formes dont nous parlerons ultérieurement, qui passent par la langue, par la rhétorique, par une certaine technique, mais qui sont des éclats de cette expérience intérieure qui transmue l'être et le néant, la joie et la douleur.
Merci Julia Kristeva pour cette magnifique conclusion, très spinoziste d'ailleurs. On y reviendra la semaine prochaine. C'était Talmudique, une émission de Marc-Alain Wachnin. Vous trouverez les références bibliographiques de Julia Kristeva sur le site Talmudique, franceculture.fr, où l'émission est téléchargeable un an et est réécoutable 1000 jours.